Donc bonsoir, bonsoir à tous, à toutes et à tous d'être venus, et merci pour écouter Pierre Sautreuil. Je vais rapidement vous présenter Pierre Sautreuil, car sa venue nous est doublement chère, car Pierre Sautreuil a obtenu le prix du livre du réel Mola Sud-Ouest, qui récompense son livre, donc Les guerres perdues de Youri Belaïev. Je dois dire, puis je suis un peu dans le secret du jury, que c'est la délibération a été assez rapide, et c'est un livre qui a emporté notre enthousiasme pour ce que nous allons développer, mais pas simplement pour l'aventure extraordinaire qui est celle d'un jeune journaliste français qui rencontre un chien de guerre russe perdu au fin fond du Donbass, donc dans la partie orientale de l'Ukraine, mais pour ce qu'il raconte également de toute une aventure, toute l'aventure d'un continent qui est le continent russe. Donc voilà, bonjour, bonjour Pierre.
Bonjour, bonjour à tous.
Il faut dire que tout a très mal commencé finalement, parce que logiquement, jamais vous devez vous retrouver en Ukraine.
Oui, non, effectivement. Ma venue en Ukraine était absolument, j'allais dire inespérée, mais on ne va pas dire ça pour une zone de guerre. Ma venue en Ukraine était complètement inattendue. C'est-à-dire que je suis très jeune, je vais avoir 25 ans dans deux jours. Et à l'époque où le conflit a commencé, moi j'étais encore étudiant en journalisme et je me trouvais à Moscou pour une année de césure entre ma première et deuxième année de journalisme. Je me disais, il faut faire des stages, il faut faire ces gammes. Quand on est apprenti journaliste, il faut aller faire des stages, apprendre ce que c'est qu'une rédaction, etc. Le problème, c'est que je me retrouve alors dans une rédaction qui s'appelle Le Courrier de Russie, qui a une ligne à l'époque très favorable à l'annexion de la Crimée, très favorable à la politique que mène la Russie en Ukraine, qui affirme défendre un point de vue russe, entre guillemets, allez savoir ce que ça signifie. Et on se retrouve avec un certain nombre de désaccords sur la ligne éditoriale. Bilan, un stage qui devait durer 3 mois est écourté à 1 mois. Je me retrouve à la porte et avec ça en prime, j'étais à Moscou, ils me disent « Bon, bah, on t'a sucré ton visa du coup, donc t'as 3 jours pour quitter le pays. » Bon. Donc j'en parle avec des amis journalistes qui travaillaient à l'agence France Presse à Moscou, on en parle autour d'un verre, ils me disent « Bon, t'as pas de bol. » Moi, à ta place, si j'avais ton âge, j'irais acheter un sac à dos et j'irais prendre un train pour l'Ukraine. Il se passe plein de choses, t'as un an à tuer, va en Ukraine, essaye de vendre des piges, essaye de devenir contributeur indépendant de différents journaux et t'auras suffisamment de matière sur place, vu l'instabilité du pays et la guerre qui se développe, pour peut-être essayer de placer quelques piges et te faire un peu d'argent. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé à Decathlon, je suis allé m'acheter un sac, j'ai rassemblé mes affaires et puis j'ai pris un train pour Kiev et quelques heures avant l'expiration de mon visa, j'ai passé la frontière russo-ukrainienne et je suis arrivé à Kiev.
Alors donc à ce moment-là, il faut préciser que le conflit n'avait pas sinon débuté, c'était les prémices d'un conflit.
On était au début de l'été 2014. Ouais.
Voilà, début de l'été 2014. Et ce que l'on présentait, c'était la montée de tensions qui allait débuter donc par une guerre qui d'ailleurs reste sporadique. Finalement, elle ne s'est toujours pas arrêtée.
Bah, la guerre a connu des phases différentes en Ukraine, c'est-à-dire que le conflit véritablement, l'annexion de la Crimée a eu lieu au début du printemps 2014. Elle fait suite au mouvement révolutionnaire dit Euromaïdan. Qui a abouti en février 2014, qui a vu le renversement du président Yanukovych, qui portait le label de pro-russe, mais qui était surtout très corrompu. Et c'est ça qui avait, plus que tout, plus qu'une orientation géopolitique, c'est ça qui avait mis les Ukrainiens dans la rue. C'était une révolte contre la corruption de ce régime. La Crimée a été annexée à la faveur de cette instabilité et de cet effondrement de l'État ukrainien au début du printemps 2014. Après quoi, des mouvements séparatistes pro-russes sont apparus dans l'est de l'Ukraine, à Kharkov, à Lugansk et à Donetsk. Et là, cette fois-ci, les Ukrainiens se sont dit « on va pas faire comme la Crimée, on va pas perdre ces régions-là non plus », donc ils ont décidé d'envoyer l'armée. Et ça, c'était à partir de mai 2014. Et la Russie a commencé à peser dans le jeu. D'abord de manière indirecte, beaucoup de volontaires russes sont partis pour donner un coup de main par solidarité russe, etc. Et tout au long de l'été, on a une lutte extrêmement violente qui va faire 3000 morts entre les partisans pro-russes d'un côté et l'armée ukrainienne qui était dans un état déplorable. Et la majeure partie du combat a été portée d'ailleurs par des bataillons de volontaires ukrainiens qui ne recevaient pas de paiement, qui ne recevaient que des dons et qui étaient très, très légèrement équipés. Donc on a une guerre qui va faire 3000 morts pendant l'été et qui voit l'armée ukrainienne l'emporter temporairement jusqu'à ce qu'en août 2014, l'armée russe décide de faire peser son poids dans la balance et inverse totalement le rapport de force. Et alors que Donetsk et Lugansk sont sur le point de basculer et d'être encerclés, l'armée ukrainienne va s'effondrer face à l'avancée russe. Et c'est ça qui va mener en septembre 2014 à la signature des accords de paix, enfin des accords, du cessez-le-feu de Minsk, qui va geler la situation. Donc on a eu, ne serait-ce qu'en 2014, tout un tas de phases différentes qui se sont enchaînées, d'un soutien masqué, d'un soutien informationnel, vu que la propagande a joué un rôle incommensurable dans ce conflit, jusqu'à une implication directe des forces russes, qu'on va voir encore en février 2015, notamment autour de la bataille de Debaltseve, qui va être le dernier événement avant l'entrée en vigueur du deuxième cessez-le-feu de Minsk 2, qui est encore le cessez-le-feu qui gouverne la situation actuelle.
Et à ce moment-là, vous vous trouvez où ? Vous êtes parti directement sur l'autre côté de la ligne de front, c'est-à-dire vous êtes parti directement avec les pro-russes, d'une certaine manière.
En fait, moi, je me retrouve en Ukraine, donc je descends de mon train. Je me retrouve en Ukraine, on est en juin-juillet 2014. Et j'ai pas envie d'aller directement en zone de guerre parce que j'ai 20 ans, que j'ai pas envie que ma mère me tue, que j'ai pas envie.
Voilà, il y avait d'autres dangers que votre mère, moi, sur place.
Ouais, elle est redoutable quand même. Et je voulais lui épargner ça dans un premier temps, donc j'ai commencé à faire des articles à gauche à droite. À Odessa, par exemple, en Transnistrie, qui est une autre république indépendantiste pro-russe qui est en Moldavie cette fois-ci, à l'ouest de l'Ukraine. Et puis un jour, au cours de l'été 2014, j'entends parler de volontaires français qui veulent se rendre aux côtés des séparatistes pro-russes pour combattre avec eux. Et c'est ça, en fait, qui m'a mis un pied dans le Donbass, véritablement. C'est-à-dire que j'ai obtenu le scoop à l'époque, en août 2014, sur ces premiers volontaires français issus de l'extrême droite ultranationaliste française, de mouvements dissous après l'affaire Méric, tels que Troisième Voie, etc., qui ont décidé d'aller faire le djihad russe, entre guillemets, comme les Russes eux-mêmes l'appelaient, et d'aller combattre avec les séparatistes pro-russes. Donc ça a été un premier contact avec le conflit. Et puis un jour, j'étais en Ukraine, on était en octobre, j'ai un ami italien, un photographe, qui me dit « Écoute, moi je vais dans le Donbass, est-ce que tu vas venir ?» Et en fait, bon, c'est les erreurs de jeunesse qu'on fait pas seul, mais qu'on fait à deux. C'est-à-dire, c'est des effets de groupe. Tout seul, on n'aurait pas trop la motivation, mais à deux, ça prend des airs de petite fugue un peu folle, quoi. Et donc, on se retrouve à voyager ensemble vers l'Est, et on traverse le front, on obtient les accréditations, et là, je me retrouve à Donetsk, on est à la fin de l'octobre, on est en octobre 2014, et malgré le cessez-le-feu, les combats sont toujours extrêmement violents. Et ça va être mon baptême du feu, en fait.
Et alors, c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer le personnage qui va devenir le héros de votre livre. Ce qu'il faut préciser avant toute chose, c'est que ce livre est loin d'être un simple reportage. C'est également un témoignage très bien écrit, ça je dois le souligner tout de même, avec infiniment une empathie sur laquelle on va revenir, parce que c'est une empathie extrêmement ambiguë par rapport à ce personnage-là, mais d'évidence. Vous rencontrez quelqu'un auquel vous allez vous attacher petit à petit, parce qu'il ne fait pas partie non plus des seigneurs de la guerre. C'est un second couteau des seigneurs de la guerre, d'une certaine manière.
En fait, à l'époque où j'y étais, aujourd'hui, on est face à des camps beaucoup plus structurés. On peut dire véritablement, il y a des pro-russes d'un côté, des Ukrainiens d'un côté. À l'époque où je suis arrivé dans le Donbass, on est vraiment un mouvement pro-russe qui, bien que sous l'égide de Moscou, était en train de se structurer avec tout un tas de compétiteurs pour le poste de chef. Donc, dans la région de Donetsk aussi bien que dans la région de Lugansk, surtout dans la région de Lugansk, il y avait beaucoup de seigneurs de guerre qui tenaient des villes différentes et qui se tiraient la bourre pour contrôler les afflux financiers, contrôler les trafics, contrôler le ravitaillement en armes, etc. Il y avait différents seigneurs de guerre dans différentes villes, certains parfois dans la même ville. Donc on avait cette espèce d'ambiance de village gaulois coupé en deux où un marché était sous le contrôle de tel seigneur de guerre, un autre marché était sous le contrôle de tel autre seigneur de guerre. Et moi, dans le cadre d'un reportage justement sur ces luttes internes qui me passionnaient, parce qu'en fait, quand on est journaliste, ça s'applique aussi bien à l'Ukraine qu'à l'affaire Cahuzac, les informations les plus précieuses sortent quand quelqu'un veut faire sortir ces informations précieuses, c'est-à-dire veut nuire à quelqu'un d'autre. C'est les antagonismes, en fait, qui portent à la surface les informations les plus néfastes, en fait. Donc, à la faveur de ces dissensions, il y avait tout un tas d'informations à collecter, quoi. Pourquoi est-ce que vous avez ce conflit ouvert ? Ah, bah ça, c'est parce que le gars d'en face, il trafique de l'aide humanitaire. Ah bon ? Je savais pas. Dis-moi en plus, ce genre de choses. Donc, je m'intéresse à un de ces seigneurs de guerre qui était à Lugansk, qui se faisait appeler le commandant Batman, parce que c'était un ancien Spetsnaz, c'est-à-dire un membre des forces spéciales ukrainiennes, et que l'emblème des forces spéciales ukrainiennes est une chauve-souris. C'est une chauve-souris, c'est un animal qui se déplace dans les ténèbres et qui détruit sa proie discrètement. C'est les forces spéciales. Du coup, bon, comme c'est pas non plus des doctorants, ils se sont dit « Ah oui, bah on va t'appeler Batman, du coup. » Bon, donc le nom est resté. Et le commandant Batman était une personnalité très charismatique, qui avait beaucoup de soutien au sein de la République populaire de Lugansk, et qui était en opposition directe avec l'homme du Kremlin dans la région. Et c'est là que j'ai rencontré Yuri. Yuri, c'est un Russe qui est aujourd'hui à la soixantaine et qui était à l'époque qui avait des ennuis avec la justice russe et qui s'est dit tiens si j'allais me mettre au vert dans le Donbass. Et il est devenu le conseiller, le bras droit du commandant Batman. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Au début, je voyais juste un porte-parole, attaché de presse, responsable des relations publiques, etc., conseiller occasionnel, cardinal gris. Et puis, à force de discuter avec lui, j'apprends deux, trois choses. Il commence à me parler de la Bosnie. Donc, j'apprends qu'il a combattu en Bosnie avec Karadzic et les Serbes. J'apprends qu'il a été millionnaire. J'apprends qu'il a été impliqué dans tout un tas d'actions mafieuses à Saint-Pétersbourg dans les années 90. J'apprends qu'il était à la tête d'un parti ultranationaliste en Russie dans les années 90. Et donc là, là je me dis, mais attendez, ce gars-là, il est beaucoup plus intéressant que le commandant Batman. Donc, en plus, le commandant Batman n'était pas disponible. Il était sur le front, il fallait attendre plusieurs jours avant qu'il revienne. Donc, je traîne avec Yuri, on commence à zoner ensemble, on commence à passer du temps, on discute, et puis il me raconte tout ça. Et là, je me dis, là, j'ai un personnage très, très intéressant pour explorer une facette qui est mine de rien très, très méconnue en France, qui sont les années 90 en Russie. C'est-à-dire qui est la matrice, en fait, à mon sens, de la situation qu'on voit actuellement en Russie, à savoir un effondrement de l'URSS qui constitue pour tout un tas de personnes un effondrement civilisationnel tellement violent, c'est-à-dire on a des taux d'homicide qui vont être multipliés par 8, ce genre de choses, la mafia partout, que la transition vers la démocratie ne va pas être vue comme une opportunité et quelque chose de positif, mais comme quelque chose de négatif. Et il va y avoir cette espèce de contrat social qui va se sédimenter autour de Poutine, à savoir, je vous assure la stabilité, une forme de sécurité et une gloire retrouvée, en échange de quoi, ne protestez pas. C'est-à-dire, c'est un statu quo, c'est une forme de contrat social autoritaire. Et ça, la matrice se trouve, à mon sens, véritablement dans les années 90, qui est une expérience traumatique pour les Russes. Et Yuri, en tant que personne qui a réussi à... qui a participé à ce chaos dans les années 90, me semble un point d'accès pour étudier cette période-là, qui est méconnue en France, mais qui est si précieuse pour comprendre la Russie. Donc j'ai décidé de lui consacrer du temps. Ouais.
Alors, ce qui est formidable dans votre livre, c'est justement cette description des années 90 à travers le portrait de Yuri Meliaev. Parce que bon, je vous fais une confidence, je ne sais pas si on en avait parlé à l'occasion de la remise du prix. J'ai été reporter également, et je me trouvais dans les années 90, j'ai assisté à la chute de l'Union soviétique et au début de la Russie, puis j'ai vu les deux drapeaux se croiser sur les murs, sur les flèches du Kremlin, et naturellement j'ai vu cette déliquescence totalement d'un État, on n'arrivait pas à y croire. Mais en revanche, ce qui m'épate assez, c'est comment avez-vous fait pour rendre compte, donc 20, 30 ans plus tard, de ce qui s'est passé à une époque où vous n'étiez même pas né.
Carré. Bah, c'est bon, c'est le travail nécessaire de documentation, etc. Que ce soit par des auteurs français, britanniques ou russes ou ailleurs, qui rendent compte de la situation. C'est la lecture d'articles à l'époque, mais c'est avant tout les récits de Youri.
Alors racontez d'abord qui est un peu Youri et tout ce qu'il a fait, parce que plus en détail.
Alors Youri Belaïev, c'est
C'est un flic d'abord.
En fait, c'est un flic à la base. C'est-à-dire, Youri Belaïev, moi, il me passionne parce qu'effectivement, c'est une porte d'entrée pour comprendre les années 90. Mais il y a quelque chose en plus. Au-delà de l'aspect historique, au-delà de l'aspect documentaire pour comprendre cette période, il y a un aspect presque vertigineusement métaphysique, en fait. C'est-à-dire qu'on a un type qui était, du temps de l'URSS, enquêteur spécial de la police criminelle de Leningrad, Saint-Pétersbourg, qui était, son domaine, c'était pourchasser les criminels, il était raciste, mais bon, pas plus que son voisin, il était pas beaucoup plus intelligent que son voisin non plus, il avait absolument rien de brillant, était pas charismatique, il avait rien, en fait. C'est-à-dire, c'était monsieur tout le monde avec un képi, quoi. Et arrive la chute de l'URSS, et là, monsieur tout le monde avec un képi va devenir un millionnaire, chef de parti politique, qui va être dans le grand bain et côtoyer les plus grandes figures du crime et aussi de la politique russe. Il a croisé Sobchak, qui était le maire de Saint-Pétersbourg à l'époque. Il a croisé Poutine, qui bossait pour Sobchak à l'époque. Comment un type comme ça, qui est aussi fade, qui est aussi inintéressant, en fait, à la faveur d'un chaos total, va devenir quelqu'un qui va profiter de ce chaos pour imposer sa volonté à des milliers de ses semblables. Qu'est-ce que c'est est-ce que c'est lié à des qualités individuelles ou est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont faites pour le chaos? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des aptitudes qui permettent de surnager là-dedans? En gros, est-ce qu'il y a des gens qui sont faits pour l'état de nature, quoi, pour l'effondrement civilisationnel et l'abandon des normes, et qui, à la faveur de ce chaos, vont se hisser au sommet de l'échelle? Et donc, c'est... est-ce qu'il y a des gens qui peuvent briller qu'en temps de chaos, quoi, en fait? Et là, j'ai vu un parallèle intéressant, en tirant la plotte, hein, je me suis dit... J'ai regardé un peu mes seigneurs de guerre dans l'Est de l'Ukraine, que je commençais à connaître. J'en avais fréquenté 2-3. Pour beaucoup, ils avaient des passés, mais similaires. C'est-à-dire, Alexei Mozgovoy, qui tenait la ville d'Alchevsk, dans la République populaire de Lugansk, une ville de 100 000 habitants qui fait la taille de Lyon. Alexei Mozgovoy était cuisinier avant la guerre. Qu'est-ce qui fait qu'un cuisinier va devenir seigneur de guerre et s'imposer à 100 000 habitants? Batman était somme toute charismatique, mais c'était juste un ancien soldat qui faisait de la sécurité privée. Il y avait tel et tel businessman, mais à part ça, bon, c'était ni des Alexandre le Grand ni des Napoléon, les gars. Pourquoi eux, en fait? Et donc je me suis dit, avec Youri, on va avoir l'opportunité de comprendre un petit peu qui sont ces personnages, faire un petit parallèle entre eux. Et en fait, ça amène un questionnement qui est vertigineux. C'est si demain ça arrive en France, qu'est-ce qui se passe? Et ça amène à étudier aussi, ça sort pas de nulle part, ces choses-là. Un seigneur de guerre, ça arrive pas tout seul. Il y a des qualités individuelles, mais il y a aussi des soutiens extérieurs, des soutiens de Moscou en l'occurrence. Il y a des liens, il y a des réseaux. Sur la base de quoi se fonde un seigneur de guerre? À l'état de nature, en fait, si jamais on devait peler cette couche de civilisation, en fait, qu'on a actuellement. Cette architecture de loi, cette toile de normes qu'on a actuellement. Si jamais on devait écorcher ça, qu'est-ce qui nous resterait? Vers quoi on se replierait le plus naturellement? On voit au Proche-Orient, ça pourrait être le caractère national ou le caractère religieux. Les communautés tribales ailleurs, les communautés claniques, etc., la famille. Dans l'Est de l'Ukraine, on voit Sur quoi se sont fondés les bataillons des seigneurs de guerre ? Sur des clubs de sport. Parce que un club de sport, c'est des mecs qui soulèvent des poids toute la journée, qui sont a priori plutôt costauds, et quand il n'y a pas de loi, bah, c'est les mecs costauds qui l'emportent, quoi. Et puis quand les mecs costauds trouvent une Kalachnikov, bah, c'est des mecs costauds qui savent tirer. Donc c'est eux qui vont l'emporter, c'est eux qui vont imposer leur volonté aux autres. Et c'était intéressant en fait de se poser la même question en France. C'est-à-dire en fait là on pouvait sortir un petit peu du cadre juste documentaire, reportage, pour partir sur quelque chose d'un peu plus métaphysique, de se dire à quoi ça tient en fait. C'est-à-dire si jamais nous aussi on devait être confrontés à une situation comparable, bon bah qui est-ce qui gagne quoi.
Mais il y a un détail tout de même qui me chagrine un peu, parce que dans tout ce que vous avez défini, sur, qui est très vrai, sur en temps de chaos, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. C'est vrai que moi j'ai connu Arkan, qui était un milicien fameux en Yougoslavie, c'était du même genre. Mais il y a une chose moi, qui me passionne, c'est que Youri Beliaev, paradoxalement, devient un mafieux militaire, milicien, chien de guerre, parce qu'au départ, il aime l'ordre et il ne supporte pas de voir son pays en désordre.
C'est vrai. Et les seigneurs de guerre qu'on voyait dans l'Est de l'Ukraine témoignaient d'une grande nostalgie vis-à-vis de la grandeur perdue de l'ex-URSS. Commandant Batman va dire « Moi, je ne suis pas ukrainien, je suis un citoyen soviétique. Je suis le citoyen d'une grande nation qui faisait 27 millions de kilomètres carrés et qui foutait les pétoches à l'intégralité du globe. » Avec des toilettes qui marchent et l'eau courante. Donc c'est alors que l'Ukraine, bon, c'est un peu allez, l'enfance en Ukraine, ça devait être moins sympa quoi.
Alors cette nostalgie, est-ce qu'elle vous paraît, cette nostalgie ? Oui, cette nostalgie finalement qui a gagné des.
C'est une nostalgie, ouais. Après, je pense qu'il y a ce sentiment nationaliste. Après, il y a la projection de l'ego dans un collectif. À partir du moment où on voit Youri, en fait, n'a jamais été communiste, c'est-à-dire. Hein. Il a toujours eu cette phrase, il dit « Moi, je ne suis pas communiste, je suis membre du parti. » C'est-à-dire, si on voulait faire carrière dans l'administration à l'époque, et notamment dans la police, il fallait avoir sa carte au parti. Mais il était loin, loin, loin d'être communiste. Lui, c'était un nationaliste grand russe qui considérait que l'URSS n'était qu'une extension sous un nom différent de l'Empire russe, et que c'était très bien comme ça, quoi. En revanche, il déplorait le fait que les minorités nationales étaient surreprésentées au sein des institutions soviétiques, ce qui a nourri son racisme, etc. Et il voyait le communisme comme un complot juif, etc. Enfin, on a vraiment affaire à quelqu'un qui nous tire pas vers le haut. Mais il livre un cas intéressant dans la mesure où des nationalistes vont quand même être nostalgiques de l'URSS, alors même qu'il a dénigré. Parce que pour eux, c'était quand même un moyen d'expression de la grandeur russe, quoi. C'était ça.
Il y a également autre chose qui est fascinant dans le portrait composé de Youri Beliaev. C'est un mafieux. On peut le dire comme ça, c'est un politique mafieux. C'est un Bien politique sûr. Pourri. Bon. Mais en revanche, il y a un certain respect dans l'ordre de cette mafia qui se crée de toutes pièces sur les décombres de l'Union soviétique, mais qui est en train de se créer de toutes pièces. Et à un moment donné, et c'est l'une des raisons de sa chute, il sort à plus fort que lui.
Ouais. Bah après, c'est pas le fruit de son éthique. C'est-à-dire, oui, dans un environnement mafieux, à partir du moment où on est face à quelqu'un de plus fort que soi, on dégage, quoi. Youri a vu mourir un certain nombre de ses camarades en crime.
Il faut préciser qu'il avait un petit business.
Il avait un petit business, ouais. C'est-à-dire, il avait plusieurs business. Le gros business qu'il a propulsé en 93, c'est quand il a mis la main sur le contrôle du business de l'essence à Saint-Pétersbourg, le contrôle des raffineries à Saint-Pétersbourg. À partir de là, il a fait des millions. Sauf qu'il n'avait pas nécessairement la force de frappe pour empêcher d'autres prédateurs de se jeter sur sa source de revenus. Et il a commencé à les perdre très très rapidement. Et il les a cédés à quelqu'un qui s'appelle Koumarine, qui est le plus grand mafieux qui ait jamais connu Saint-Pétersbourg, qui était qualifié de gouverneur noir de Saint-Pétersbourg, et qui a régné sur le crime pétersbourgeois, grosso modo, de 1994 à 2009, quoi. c'était la grande figure. Mais Yuri s'est heurté à plus fort que lui. Et je pense, moi, oui, il y avait une idéologie, mais comme ses amis le décrivent, j'ai interviewé plusieurs de... Je me suis pas limité, en fait, à juste un verbatim de Yuri. J'étais pas là pour lui tendre le crachoir. Je faisais une enquête sur lui. Donc, après nos rencontres multiples dans le Donbass, je suis allé à Saint-Pétersbourg et je suis allé voir les gens qui l'ont connu. D'anciens amis, d'anciens camarades de lutte politique, d'anciens partenaires et une ancienne amante également. Et qui m'ont livré une autre vision de qui était Yuri, ce qu'il était, et qui tranchait parfois avec ce que Yuri me disait, à savoir que bon, bah, la politique, oui, ça l'intéressait, mais que Yuri a été avant tout quelqu'un qui était motivé par son ego, qui voulait briller, etc. Et que la politique n'était qu'un moyen de le faire, et que c'est quelqu'un qui voulait du pouvoir, en fait. Son amante va dire autre chose. Son amante va dire « Yuri, en fait, c'est quelqu'un de fougueux, quelqu'un d'aventureux, en fait, et qui a besoin de passion dans tout ce qu'il entreprend. » Et bah, quand il s'est rendu compte en 93 que la politique, ce n'était plus possible, en 93, on a eu le soulèvement à ce qu'on appelait la Maison Blanche russe, c'est-à-dire il y a eu cette insurrection des mouvements nationalistes et communistes à Moscou, qui a failli renverser la tendance et renverser Eltsine. Finalement, Eltsine l'a emporté. Ça, c'est le grand moment marquant dans l'histoire russe, juste après la chute de l'URSS, qui a formaté le système politique russe. Si cette révolution avait abouti, la Russie aujourd'hui serait complètement différente. Et cette occasion manquée et l'événement qui va précipiter Yuri vers le crime. À l'époque, il était plutôt clean, il était plutôt politique. Il magouillait, mais il était plus politique dans l'âme. À partir du moment où il a vu que sa révolution s'était achevée sous les coups de boutoir de l'armée, en fait, qui s'était finalement rallié à Eltsine, il s'est dit, bah, écoutez, si Eltsine l'emporte avec des flingues, moi aussi je vais l'emporter avec des flingues et je vais devenir mafieux. Et je vais poursuivre ma révolution, mais dans la mafia. Mais en vrai, je ne pense pas que ce soit un vrai révolutionnaire. Moi aussi, je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt motivé par l'ego, par un certain aventurisme, mais avant tout un peu mégalo. Ouais.
Alors bon, là, il se passe quelque chose que je trouve moi absolument extraordinaire, que vous racontez sans phare d'ailleurs dans votre livre, et qui est quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est qu'à mesure que vous rencontrez ce type-là, d'une façon extrêmement paradoxale, vous mettez à l'aimer. Ou je me trompe?
C'est compliqué. C'est toujours la question de la distance critique, en fait, du journaliste avec le sujet qu'il interviewe. C'est-à-dire, on va rencontrer quelqu'un... Bon, on a fait des centaines, des milliers d'interviews dans ta carrière. Parfois, tu fais une interview d'un quart d'heure, bon, le gars t'intéresse pas, tu prends tes notes et terminé, quoi. Parfois, tu discutes pendant une heure et le type est vachement sympathique et dit « Ah, je prendrais bien un verre, je prendrais bien un café avec lui à l'occasion. » Puis là, on est face à un gars avec qui, moi, j'ai discuté pendant plus de 100 heures, quoi, pendant des centaines d'heures, en fait. 100 heures, c'est les interviews enregistrées que j'ai une centaine d'heures enregistrées avec lui. En vérité... Je ne sais pas le nombre de centaines d'heures que j'ai passées dans ces compagnies. Il y a quelque chose d'extrêmement particulier, et je pense que tu le sais en tant que quelqu'un qui a fait du reportage de guerre, c'est que cette expérience est tellement extrême, le fait d'avoir sa vie mise en danger est tellement extrême que les personnes à qui tu as partagé cette expérience... Il va y avoir une complicité, une amitié qui va se nouer en l'espace de quelques jours. C'est-à-dire, moi, dans le Donbass, avec d'autres journalistes, je me suis fait des amis, je pense, indéfectibles en l'espace de 2 semaines. Parce qu'on avait vécu cette expérience, parce qu'on a traversé ça ensemble. On voyait l'un partir le matin, on ne savait pas s'il allait revenir, on le revoyait blême comme un chiffon à moitié sourd, on disait ben, « je suis content que tu sois en un morceau ». Enfin, c'est des expériences tellement fortes que, je ne dis pas qu'on ne peut pas les partager, c'est-à-dire, mais les vivre c'est autre chose. Et c'est des choses tellement fortes que ça va souder, ça crée une complicité, ça crée une intimité. Et ça, ce n'est pas juste avec les collègues journalistes. Yuri, moi, j'allais passer des nuits chez lui. C'est-à-dire, il y a une période où il se planquait, où il craignait pour sa vie, où il était hébergé par des proches dans le Donbass, du fait des luttes internes que j'ai décrites plus tôt. Et moi, je prenais un risque en allant chez lui, en fait, pour aller poursuivre les entretiens. Et je passais la nuit chez lui parce qu'il y avait un couvre-feu. On ne peut pas circuler sur les routes du Donbass après 21h. Donc, je restais la nuit chez lui. Et puis, on regardait un film, on discutait, on buvait des bières. Et on se demandait si quelqu'un n'allait pas toquer à la porte et nous coller une balle. Donc, en gros, ça soude. En fait, il y a ce climat-là. Cette solitude qui est à la guerre, qui est l'élément déclencheur, c'est-à-dire moi, le premier moment où je me dis je vais voir Youri pour autre chose que pour un entretien, c'est je suis seul à Lugansk, ça bombarde depuis des heures, j'en peux plus, j'ai les nerfs qui vont lâcher, j'ai besoin de voir quelqu'un que je connais, le seul visage que je connais à Lugansk, c'est Youri. Je dis, tu fais quelque chose, passe à la base, on discute. Donc, en fait, c'est d'abord une relation humaine avant d'être une question d'affinité. Quoi. En fait, c'est d'abord une question de présence quoi, avant d'être une affinité personnelle.
Oui, parce que ce qu'il faut préciser pour être juste, c'est que cette relation est partagée. Parce qu'à un moment donné, Youri Beliaev s'inquiète mais très, très fortement, très, très vivement du sort qui vous arrive, de tout ce que vous risquez. Il ne sait pas si vous êtes vivant ou vous êtes mort, il vous cherche, il vous envoie des textos, qu'est-ce que tu fais, etc. etc. Donc, c'est une relation véritable qui s'est créé avec ce type-là.
Oui, c'est sûr. Moi, évidemment, j'avais un intérêt qui était plus grand, évidemment, parce que c'était aussi un intérêt de travail. Après, pour lui, est né aussi cet intérêt de... Quand je lui ai dit que j'allais faire un livre, au début, il ne me croyait pas. Il disait, mon gamin, toi, faire un livre, t'as 21 berges, on en reparle. Puis, je lui ai apporté un contrat, je lui ai apporté une centaine de pages, j'ai dit, on fait un livre, en fait. Il a dit, ok, on fait un livre, d'accord, ok. Et là, son attitude a un peu changé. Il a compris que lui aussi, il avait un intérêt là-dedans. Parce que Youri, c'est, comme on disait, à la fin des années 90, il a tout perdu. Il a rencontré plus fort que lui. Il a commencé à avoir énormément d'ennuis avec la justice. Youri, c'est un perdant de l'histoire. Et un perdant de l'histoire, ça a besoin de raconter son histoire. Ça a besoin de raconter sa version des faits. Ça veut montrer que c'est pas juste un perdant. Donc Youri, il avait un intérêt à faire ça également. Et ça, c'est quelque chose que je pense que tu as aussi rencontré. C'est quelque chose que moi, j'ai rencontré dans d'autres reportages au Mexique cette année, par exemple, où j'ai interviewé des criminels comme ça, qui me disaient, on est dépeints comme des gros salopards. Oui, on a tué des dizaines de personnes. Mais attends, je vais te faire la liste des personnes qui sont, auxquelles j'ai versé des enveloppes dans le gouvernement régional. Donc en fait, ils ont toujours une autre version des faits, notre narration à livrer. Et Youri, c'était ça. Il voulait faire passer sa version, je pense.
Sa version des faits, oui. Ouais. Tout à fait. Il y a dans le livre, à un moment donné, vous êtes obligé de rentrer en France. Vous rentrez en France. Et ça, c'est absolument passionnant parce que cette rentrée en France, elle se passe aux alentours de Noël 2014, début janvier 2015. Ouais. Et ce qui est passionnant, c'est que votre esprit est resté là-bas. Et il est, avec tout ce qui se passe en Ukraine, qui n'intéresse strictement personne en France, ouais. Et qui intéresse d'autant moins personne en France que, et ça, c'est, je trouve ça bouleversant dans ce livre, c'est que ça se passe au moment du 7 janvier 2015. 7 janvier 2015, c'est l'attentat de Charlie Hebdo. Et paradoxalement, vous, cet attentat, c'est pas qu'il vous intéresse pas, mais...
Je vais vous décrire la scène.
Vous êtes ailleurs.
Je reçois l'alerte du Monde, Kabu est mort, je fais « ok ». Il m'a fallu une demi-heure pour réaliser « Ah oui, il se passe quelque chose d'extrêmement grave » et reprendre mon portable. Parce que, en fait, moi, j'étais en train de suivre des obsèques qui étaient retransmises depuis Lugansk d'un seigneur de guerre que j'avais rencontré. J'avais vraiment mon esprit là-bas, quoi. C'est moi, ce qui se passait en France, ce qui se passait ailleurs. Et c'est très, très dur. Le retour est toujours très dur parce que on ne voyage pas en calèche. Hein. Je veux dire, un coup d'avion, en 3 heures, on est de retour à Paris, c'est terminé. Mais les habitudes qu'on a prises, c'est-à-dire de ne pas écouter de musique dans la rue pour rester à l'affût du sifflement d'un obus, scanner son environnement pour savoir si jamais une balle part, ok, je peux mettre à l'abri la balle, les sorties sont par là, etc. Ça, c'est des choses dont on ne se débarrasse pas rapidement. C'est ce qui, dans la forme extrême, constitue un syndrome de stress post-traumatique, qui je pense que moi, je n'ai pas eu, parce que je ne me suis pas réveillé la nuit en hurlant de terreur, mais j'ai eu mon lot de cauchemars, j'ai ramené un peu la guerre à la maison. Et je sais notamment que par la suite, bon, ça c'est plus des affaires personnelles, ça m'a coûté une relation amoureuse quand je suis vraiment rentré du Donbass en 2016. Donc c'est des... C'est des choses qu'on ramène avec soi. Donc la, ma réaction à l'attentat du 7 janvier, en fait, c'est juste... ouais, j'avais pas débranché, en fait. Et c'est tellement dur de débrancher, quoi. C'est pour ça qu'il y a des... il y a des hôpitaux à Paris qui offrent des consultations gratuites à des reporters qui reviennent de zone de guerre parce que faut vider le sac.
Oui. Bon, revenons au livre, parce qu'il y a, également, au-delà de cet aspect qui est fascinant, parce qu'il y a cette relation-là, moi j'y vois un peu de toute façon une relation de filiation qui ne dit pas son nom. De sa part, peut-être de la vôtre également. Mais il y a également autre chose qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a un suspense. Parce que ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est que Youri Belaïev, il est quand même menacé de mort en Russie. Mmh. Il y a des types qui veulent toujours sa peau. Et en fait, l'intérêt du livre, c'est est-ce qu'il va pouvoir revenir en Russie ?
En fait, moi, j'ai l'intégralité de ce livre. Tous les faits qui sont relatés dans ce livre sont vrais. Ont vraiment eu lieu. C'est dans la construction, en fait, hein, qu'on va voir si on part sur un document, un reportage, ou si on essaye d'en faire quelque chose d'un peu plus différent qui va se rapprocher d'une œuvre un peu littéraire. Et moi, j'ai conçu ce livre comme quelque chose, je voulais qu'il y ait du suspense, parce que l'Ukraine, en soi, ça intéresse pas grand monde, ça intéresse plus grand monde aujourd'hui. Bon, c'est pas si loin, mais c'est un peu loin quand même. Je voulais qu'il y ait du suspense et j'ai conçu ce livre. En fait, je n'ai pas eu besoin de chercher énormément pour voir que l'histoire que j'avais sous les yeux était en fait une histoire d'évasion. Quoi. C'est-à-dire que Youri, qui n'était pas menacé de mort en Russie, il était menacé d'incarcération. Il avait la justice aux fesses. Quoi. Il s'était déjà fait arrêter de nombreuses fois. Il s'est dit, là, il faut que je parte, maintenant ça craint trop pour moi. Il fallait qu'il se mette au vert. Et une fois arrivé dans le Donbass, là, cette fois-ci, c'est plus l'incarcération, c'est la mort qui le menace, du fait de ses luttes internes. Et donc, il se retrouve, il ne peut pas aller en Ukraine parce que c'est un séparatiste, il ne peut pas aller en Russie parce qu'il est, parce qu'il y a justice aux fesses. Et entre les deux, dans le Donbass, bah, il est menacé de mort. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Et en fait, c'est cette espèce de... C'est moi, à ce moment-là, que je passe le plus clair de mon temps avec lui. À essayer de comprendre, bon, bah, est-ce que Youri va s'en sortir, en fait ? Et comment il va s'en sortir ? Et c'est là-dessus que j'ai construit, le suspense du livre avec cette interrogation, comment est-ce que Youri va se tirer de ce mauvais pas. Et c'est là, en fait, où je pense que... Enfin, maintenant que j'ai suffisamment de retours de lecteurs, c'était mon ambition et je pense que je l'ai accompli, en fait, c'est de faire transparaître l'empathie qu'on peut avoir pour un salopard, en fait. C'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un qui risque sa peau, avec qui on passe autant de temps, on peut que se réjouir du fait qu'il s'en tire, en fait. Parce qu'il a face à lui des forces qui sont bien plus fortes que lui. Il s'agit de l'État russe, il s'agit de seigneurs de guerre, du Donbass. En gros, c'est le petit pousset. C'est un gros salopard, mais c'est le petit pousset. Et contre toute attente, il va réussir à s'en tirer. Bon, bah, en fait, ce que je voulais... C'était mon objectif d'un point de vue littéraire, c'était que au moment où Youri s'en tire, le lecteur en fait partage dans une certaine mesure l'empathie qu'on puisse avoir pour un personnage aussi ambivalent que là que Youri et que ça montre, bah en fait, c'est pas un monstre quoi. En fait, c'est le produit d'une époque, c'est le produit d'une formation intellectuelle, une formation affective et de choix effectués et d'erreurs accomplies.
Ben, c'était également la dernière question que je voulais vous poser, mais comme vous avez déjà brillamment répondu, il faut que j'en trouve une autre. Alors, il y a également autre chose qui m'intéresse, c'est au-delà de Youri, vous avez découvert d'une certaine façon la Russie.
Quand je suis allé en Ukraine, la Russie, j'avais passé tout et pour tout un an et demi. C'est-à-dire, j'ai fait mes études, j'ai fait une année d'échange à Moscou, où j'ai passé le plus clair de mon temps à ne pas aller en cours et aller en boîte. Donc, je connais très bien Moscou, je connais très bien les boîtes de Moscou, mais je suis jamais allé très à l'est, je suis jamais allé faire un tour en Sibérie. Moi, les petits villages et les coupoles dorées, bon, c'est très peu pour moi à l'époque. C'était Moscou, Saint-Pétersbourg, et c'était très bien comme ça. Bon, voilà ce qu'on fait à 19 ans, quoi. Et je me posais pas trop de questions. J'apprenais le russe, je trouvais ça chouette. Je découvrais un autre pays. J'étais allé en Russie totalement par hasard. J'avais des amis qui allaient. Je me suis dit, tiens, ok, intéressant, allons-y. Et puis Yuri, bah, effectivement, amène à comprendre une Russie qui, moi, en fait, s'est nouée à un moment où je n'étais même pas né, quoi. je suis né en 1993, qui est pour Yuri l'année charnière, en fait. Donc, en fait, il a fallu pour moi me plonger dans une histoire bien antérieure, quelque chose que je n'ai ni vécu ni ressenti, que j'avais effleuré dans mes études à Sciences Po. J'avais étudié la Russie, j'avais étudié les systèmes politiques, j'avais étudié le communisme, etc. Mais il y a un monde entre le fait de comprendre... d'étudier que faire de Lénine en 1905, d'étudier tel et tel texte de Marx, etc., et de comprendre véritablement ce que c'était que le communisme et le soviétisme ressentis comme une projection collective de puissance, un ressenti de puissance collective et une fierté. Ça, tout un tas de choses comme ça qui étaient impossibles à appréhender et qui expliquent tant de choses de la Russie, en fait. Et comme tu le disais, en fait, il y a un aspect de nostalgie qui est fondamental. Et peut-être, si on peut conclure là-dessus, si c'est ta dernière question, qui explique pourquoi, je pense, le pouvoir russe a autant de mal avec cette nouvelle génération. Parce que c'est une nouvelle génération sur laquelle le discours de « c'est moi ou le chaos », qui est le discours de Poutine, en fait. Le contrat social que je vous propose, c'est « si demain je pars, il n'y a plus de pain dans les épiceries ». Ce discours-là ne prend pas avec une génération qui n'a pas connu les années 90. C'est des gens qui sont nés en 2000. En 2004, il y avait un boom pétrolier, il y avait une classe moyenne qui commençait à solidifier, tout le monde avait une voiture, on vivait bien en Russie. Bon, et qui constate que la raison pour laquelle l'économie russe est dans les choux actuellement, bah, c'est parce qu'il y a des sanctions, c'est parce que la Russie n'a pas réussi à diversifier son économie et dépend trop des hydrocarbures, c'est parce que la Russie mène une politique impérialiste qui peut sembler complètement irrationnelle aux yeux d'une génération qui est plutôt portée vers les valeurs européennes, dans une certaine mesure. Donc, je pense que ça explique un statu quo qui est resté en place pendant quasiment 20 ans, et ça donne les clés de compréhension de pourquoi ce statu quo va se déliter et qu'est-ce qui va venir après Poutine. On n'en sait rien, là c'est du loto, là. Mais en tout cas, ça permet aussi de se projeter un petit peu dans l'avenir et de comprendre par où ça va pêcher, quoi.
Bien, écoutez, merci Pierre.
Merci. Merci.